couleur de théâtre. Il y a un moment donné, avec les grands accords, au moment où rentre l'orchestre, des accords un peu taillés en biseau, comme on fait un peu à l'opéra. Il y avait des couleurs, Don Carlo, l'Espagne, quelque chose de très... Je ne me suis pas du tout retrouvé. La trompette, notamment, un peu théâtrale, avec le petit vibrato un petit peu aguicheur par moment, et puis qui ne va pas au bout. Une trompette un peu coquette, mais qui ne va pas au bout. C'est-à-dire que dans le crescendo, à un moment donné, on sent qu'elle atteint son potentiel maximal, et on aurait besoin d'encore plus. Je sais pas, c'est une version qui promet beaucoup, qui lance beaucoup les choses, mais qui ne va pas tellement au bout pour moi. Et le rythme de marche, effectivement, il est omniprésent, mais je le trouve un peu scolaire dans cette version. Il n'est pas chargé de conduct. On n'est pas là-dedans.
Vous qui êtes, Yannis, c'est le spécialiste de la reconnaissance des orchestres. Vous avez une idée là ou pas?
Pas du tout.
Pas du tout, pas d'école, pas de paix. Non,
justement, alors l'école violonistique, je ne sais pas, parce que je me dis c'est étonnant. Il n'y a pas une école, je
ne
sais pas.
Hervé, une idée? Non.
Ah non, non, non.
Non. Non, non, non.
On va attendre les 6 versions.
Bon, on passe à la 4e qui est la D. La version D, de la cinquième de Mahler, qu'on écoute cet après-midi dans la tribune des critiques de disques sur France Musique. Est-ce qu'elle apporte un nouvel éclairage, cette version des Béatrice Muttelet ?
Alors, pour moi, oui. J'ai l'impression d'être au cinéma. Je trouve que c'est très, très habité. Alors, elle est plus lente que les autres, il me semble. Mais en tout cas, je ne sais pas. Je suis pris de tristesse quand j'entends ce thème. Dans les cordes. Alors, il y a une retenue, mais c'est tellement triste. Et c'est très bien interprété. C'est très bien joué, donc vraiment dans le pianissimo. Et il y a marqué toujours, Mahler écrit aussi sempre pianissimo, parce qu'il sait très bien qu'on est amené à en faire trop. Les musiciens, il connaît nos travers. Donc, quand il nous remarque, après 8 mesures, sempre pianissimo, c'est qu'il sait que naturellement, on voudrait peut-être jouer plus, et non. Donc, dans cette version, c'est vraiment pour moi magnifiquement construit. Transmis, en fait, oui. Ce thème triste. Enfin, oui. Moi, j'ai été triste. Et je trouve que c'est plus dans l'esprit, enfin, vraiment dans l'esprit de ce morceau.
Oui. Est-ce que les petits détails que vous n'entendiez pas tout à l'heure dans certaines versions, sur ces focus, sur certains pupitres,
oui.
Vous l'entendez là ?
Oui, alors j'ai toujours... Alors, je me suis en train de me poser si j'ai peut-être pas la bonne version, parce que j'entends les violoncelles aussi qui font un endroit, un sforzando très très fort, qui sort et qui n'est pas dans mon score. Alors, j'ai une édition Peters de Leipzig, mais je ne sais pas si c'est la bonne, parce que clairement, ils font un accent où il n'est pas marqué, et ça, c'est dans toutes les versions, donc ça doit être peut-être une version retravaillée.
Oui. Peut-être une musique. Yannick Mignon, est-ce que vous avez la même version que Béatrice ou pas ?
Oui. Ouais. Oui, c'est Peters aussi. Oui.
Ouais. Ouais. Donc, ce n'est pas indiqué.
Ouais. Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Béatrice ?
Ah oui, oui. Moi,
sur l'émotion, déjà.
Ah ben, déjà, ouais. oui, tout à fait. Là, déjà, on a une vraie sonnerie aux morts, dès le début. Dès le tout début du solo de trompette, on a une vraie gradation dans ce solo, et là, pour le coup, le la aigu, il est complètement assumé. Celui d'avant était un peu chinté, surtout n'en faites pas trop. Là, celui-là, il est vraiment assumé, il y a une grande tension, et puis c'est un peu le destin qui frappe, comme chez Beethoven, là. Donc, on a des petits détails comme un gong tout à fait sinistre avant que les violons rentrent. Alors, on se dit, oh là là, ce petit ralenti avant l'entrée des violons, c'est presque too much. Puis, dès que ça se fait, en fait, ah ben non, mais en fait, c'était pas too much, c'est bien. On a peur et puis, en fait, ça va très bien. La marche, elle est très habitée. On a beaucoup d'affliction, de la noirceur. Le chef gère parfaitement la lenteur dans cette version. Et puis, on a des couleurs incroyables. Il y a ce tri un peu infernal qui ferraille. On a les cors et les trompettes qui s'ébrouent à ce moment-là. Ça fait un raffut tous les diables. Et il y a bien ce côté un peu macabre, un peu sinistre. Alors, on peut juger aussi que c'est une version un peu statique. Mais en même temps, bon, c'est censé être un peu pénible, une marche funèbre. C'est censé ne pas nous mettre très à l'aise physiquement. Donc, ça marche bien. C'est très sombre. C'est très bien.
Ouais. Mmh. Vous êtes d'accord avec Béatrice et Yannick, Hervé ?
Oui, oui. Ouais. Totalement. Je pense que c'est vraiment l'enterrement d'un roi, cette version. C'est-à-dire que on a en même temps un côté familier et une certaine distance qui s'inscrit. J'ai pas trouvé ça si triste, mais après, ce sont les ressentis de chacun. J'ai trouvé ça très réservé, assez distant. Un peu comme si on réalise pas exactement ce qui se passe. Mais comme on sait que c'est quelque chose d'important, il y a un geste orchestral très ample, le chef prend son temps, pose bien le discours, pose bien les choses, il n'y a aucune précipitation, le trompette a vraiment quelque chose à dire au départ et le dit, avec quelque chose de nettement plus habité que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, et une réserve de puissance aussi assez impressionnante dans le solo. Donc c'est pour moi la version de la noblesse, de la distance, une vraie marche funèbre qui impressionne beaucoup. Et je suis très convaincu, très impressionné.
Parce que vous avez entendu là. Ouais. On rappelle dans les circonstances de la composition, donc Mahler compose le premier et le troisième mouvement à l'été 1901, et il a été, au début de l'année 1901, victime d'une hémorragie intestinale qui aurait eu des conséquences, peut-être, en tout cas, sur la tonalité des œuvres qui naissent à cette période, et en particulier peut-être cette marche funèbre. Et la suite, hein, les deux autres mouvements, dont la d'Adagietto qu'on écoutera, voient le jour à l'été 1902, et entre les deux, il y a eu la rencontre
Alma.
Avec Alma Mahler. Voilà. Ouais. On y reviendra peut-être tout à l'heure. On continue l'écoute. On était à la D, voici la E.
Thank you.
Et voilà la version E. Yannick Mignon, tout à l'heure, Béatrice parlait de cinéma, une version très habitée à propos de la D. Vous diriez ça aussi de celle-là ?
Oui, mais c'est de la série B pour moi.
Ah bon ?
Ah oui, oui, je trouve.
La série B ?
Ah oui, si c'est du cinéma, c'est de la série B. Je trouve que c'est un peu une version de démonstration, avec un orchestre un peu gras, un peu
surligné. Ah oui,
ah oui, l'orchestre, le premier tout-y est assez gras. Et même, on a ce triolet final du solo de trompette, qui est très détaché, fier comme un coq, un peu dans les pattes. Il y a beaucoup d'épattes dans cette version. On a une surprise par mesure, beaucoup de... ça tire un peu tous azimuts pour attirer l'attention de l'auditeur. Et en contraste, on a ce thème qui est très neutre, presque un peu famélique.
Le thème aux cordes ?
Le thème aux cordes.
Vous trouvez neutre ?
Un peu neutre, avec des couleurs un petit peu faméliques. Et puis
ah bon ?
Un chef qui en fait beaucoup sur les indications. Donc oui. Voilà, je trouve ça spectaculaire, un peu berliozien par moment. Voilà.
Ah, berliozien ?
Oui, je trouve ça un peu gras pour être honnête, oui.
Bah, gras et famélique à la fois.
Oui, 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 gras sur les sonorités de tutti et sur les cordes.
D'accord.
Il y a une espèce de détachement, une espèce de blancheur, une pâleur volontaire de ces violoncelles et de ce violon que moi je trouve pas très intéressante.
Ouais, ouais. Je vous ai vu grimacer un peu légèrement, Hervé, le Guénec. Vous n'êtes pas du tout d'accord.
Je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, on va dire ça comme ça pour le dire clairement et pour le dire. Non, moi j'ai trouvé que c'était une version, au contraire, extrêmement. Impressionnante et avec beaucoup de douleur contenue, je trouve, dans cette version. Déjà, le solo, la trompette nous empoigne et nous dit quelque chose. Il nous embarque en nous disant peut-être c'est difficile, mais on va passer cette épreuve ensemble. Il y a une réserve un peu illimitée de puissance. Alors oui, il y a peut-être une petite coquetterie sur le triolet, mais ça fonctionne tellement bien. La montée de l'orchestre est progressive. On a un orchestre... Moi, je dirais pas gras, je dirais juste qu'on a un orchestre splendide. Il y a une splendeur orchestrale de tous les pupitres que je trouve absolument incroyable.
Les cordes sont pas faméliques.
Ah non, les cordes, au contraire, non. Non, en revanche, il y a une volonté, justement, peut-être dans le thème, il y a un côté un peu dans le brouillard. C'est-à-dire que, un petit peu comme si on avait les yeux embués, pareil, c'est cet aspect de douleur un peu contenue. On marche, on continue à marcher. Il y a une telle splendeur dans le début et dans l'introduction de la trompette qu'ensuite on va avoir cette neutralité qui, moi, je trouve, contraste très bien et fait du bien. Comme dans un deuil, parfois, on est un peu perdu, on ne sait plus où on est. C'est au-delà de la tristesse. C'est juste, on marche et on continue. Et je trouve que ça, c'est très, très bien rendu. J'ai noté aussi les corps juste avant le thème. Les corps, c'est mesure 24. Il y a les trois appels de corps. Mais les corps parlent, disent quelque chose. Il y a beaucoup, beaucoup de cette douleur sous-jacente. J'attends vraiment la suite avec impatience. Je trouve ça splendide.
Bien. Comment l'entendez-vous, cette version des Béatrice
Butelet ? Moi, je vais faire un compromis.
Plutôt Yannick ?
Version E ?
Ah pardon, version E.
Oui, oui, version E.
E.
Je vais faire tampon entre les deux. Non, mais c'est incroyable. Je constate, là, en vous entendant parler, que quand même, après le thème de la trompette, tout ce que vous pouvez dire de ce que vous attendez du morceau, et que vous dites « tout va bien se passer, le monde est un endroit finalement pas si hostile », c'est fou, parce qu'une interprétation peut générer ça, quand même. Et je trouve ça beau. Donc, j'ai trouvé ça très brillant. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'emphase sur les cuivres et les cordes. Alors, non, pas du tout famélique. Hein, mais par contre, elles étaient un peu en retrait.
Le thème, hein, j'ai pas dit que les cordes étaient faméliques. Le thème de cordes est un
peu
le
thème de...
Ah, c'est le thème aux
oui,
cordes.
Oui, le thème des cordes.
Ah, oui.
Mais bon, il n'y a pas grand-chose. Sinon, elles répondent juste... Voilà, donc j'ai trouvé que c'était... J'ai envie d'en entendre plus. J'ai trouvé que le son était quand même très brillant. La prise de son était très brillante et un peu éclatante, presque, dans les cuivres aussi, par moments. Mais je suis curieuse d'en entendre
plus. Mais vous êtes moins touchée que la précédente.
Moins touchée que dans la...
Elle n'est pas cinématographique.
Je ne sais pas si je peux dire ça. Il y a moins de pathos. Elle est moins envoûtante, en tout cas.
Mmh. Voilà. Il y a la prise de son aussi qui joue, effectivement.
Oui.
On en prend un peu plein la tête.
Oui, c'est vrai que les cuivres, c'est...
Mais c'est bien, non ?
Oui, mais bon, on a une belle prise de son.
Ça dépend.
Non.
Elle est belle, mais ça fait ressortir d'autres couleurs.
Ah oui, oui, oui.
Dans la D, j'ai trouvé ça plus humain.
Il y a débat sur la version E, on va voir ce qu'elle donne tout à l'heure. On passe à la dernière, la F. La version F, la dernière de la sélection, version, je rappelle, enregistrée au cours des 30 dernières années, hein, dans la sélection cet après-midi de la 5e de Mahler. Vers laquelle l'a rapprochée cette version F, Hervé Le Guénec, celle qu'on vient d'entendre?
Alors, c'est difficile de faire le rapprochement chauve, alors certainement pas la D. En termes de splendeur orchestrale, il y a un orchestre, je pense, de tout premier plan, et ça se rapprocherait de la E. Alors, c'est pas les mêmes types de sonorités, hein, c'est pas les mêmes choses, mais je trouve qu'il y a un équilibre orchestral très différent, mais en même temps avec des pupitres qui sont tous parfaits. Après, en termes d'esprit, c'est très différent. On a une introduction avec une trompette qui est assez froide, très puissante, directe. Le trait, c'est parfait, avec pareil une réserve de puissance et un contrôle parfait de tout ça. Et on parlait des contrastes tout à l'heure entre l'introduction en trompette et ensuite le thème aux cordes. Et je trouve que le contraste est extraordinaire ici, entre justement la froideur du thème, le côté un peu extérieur, mais voulu, et ensuite derrière, la chaleur des cordes, avec une petite hésitation au moment où il prend le thème des cordes. Il y a quelque chose qu'on n'a pas entendu jusqu'à maintenant dans le phrasé, qui est très travaillé et tout à fait particulier avec cette petite hésitation. Et on rentre ensuite dans ce thème. Et on a des cordes qui sont absolument, absolument sublimes. C'est très chaleureux, c'est très doux. L'ensemble, je trouve, est splendide, vraiment impressionnant. Donc, je trouve ça très travaillé et très habité.
Très habité, oui. Vous partagez aussi, ça vous a plu ce que vous avez entendu, Béatrice?
Oui, ça m'a plu. Et moi, je le rapproche à la version D, cependant.
Oui.
Alors que.
Ah, oui.
Parce qu'en fait, mais c'est peut-être tout simplement parce que le son des cordes me plaît, la façon de jouer. Je trouve que c'est.
Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît?
Ouais. C'est sensible. Et voilà, il y a en même temps cette retenue, mais c'est une intériorité. Voilà, c'est sensuel, mais en même temps, ça manque pas de spiritualité. Aussi, ce que je trouve très beau, c'est ce que j'appelais, dont je parlais tout à l'heure. En fait, la tristesse, c'est aussi une espèce de, découragement, un petit peu qu'on entend, que Mahler, en tout cas, a écrit dans cette mélodie si triste. C'est très intéressant ce que vous dites aussi sur le début de la mélodie, parce que c'est les timbales qui font le lien. En fait, il y a ces quatre coups de timbales, tom, tom, pom, pom. Et là, le son était très beau déjà de la timbale. Je sais pas, c'était très feutré et sombre et profond en même temps. Et en fait, les cordes doivent rentrer sur ce dernier coup de timbale. Et s'il le distend un peu, il le ralentit un peu, et ben voilà, c'est ça qui crée cette espèce de suspension qui est très belle. Donc non, j'ai aimé cette version.
Mm-hmm.
Je l'ai trouvé un peu trop bombastique au début. J'ai trouvé que c'était très dramatique peut-être, mais
c'est
voyant, on va dire un peu.
Mais c'est l'entrée des cordes qui lui donne cette intériorité.
Voilà, exactement.
Ce découragement, cet abattement.
Oui. L'envers de la médaille.
Ouais. Vous lui trouvez de l'intériorité à cette version, Yannick Millon?
Je ne sais pas trop ce que j'y trouve. Effectivement, comme Béatrice, je trouve que la pulsation est très, très bonne. C'est à la grosse caisse, c'est pas à la timbale. Mais je trouve ça, effectivement, ça c'est très réussi dans cette version. Ça donne une espèce de cœur qui bat. Ça fonctionne assez bien. Moi, c'est marrant parce qu'elle m'a fait penser plutôt à la version C. Donc, on a chacun notre idée sur.
Ah oui.
J'ai trouvé qu'au niveau du mode d'exécution, notamment de la percussion.
Pas la E.
Non. On n'a pas les. On a un peu des accords en biseau, pareil, avec une cymbale qui est pas toujours très franche, pas très nette, je trouve. Cette version, elle est très affirmative. Au début, je la trouve presque trop pleine de santé, en tout cas pour quelque chose d'aussi funèbre. Et quand le thème arrive, effectivement, on a la deuxième note du thème, le ré, qui est presque fait en retrait, comme disait Hervé tout à l'heure. Une hésitation, une retenue et une fragmentation de la phrase. On ne cherche pas le grand legato ici, on fait les choses plus ciselées que ça. Avec, j'ai pensé à Béatrice, le glissando sur la sixte, qui là est très très nette. Mais je suis partagé parce que d'un côté, je me dis que c'est relativement bien fait et d'un autre côté, je trouve ça un petit peu le cœur sur la main. Il y a beaucoup de suspense instrumental dans cette version, mais ça joue un peu sur tous les tableaux à la fois. Par moments, c'est affecté, par moments un peu extérieur, par moments un peu aguicheur. Là, c'est plutôt là que j'ai été aguiché, moi, avec le vibrato des cordes. Ce qui n'est pas forcément désagréable, hein, d'ailleurs. Mais voilà, je ne sais pas trop...
Il y a marqué expressez-vous.
Oui, oui, et puis c'est un tellement bel orchestre.
Ah, ben l'orchestre est sublime. L'orchestre est vraiment sublime. Donc je ne sais pas trop comment... Il faudrait voir sur la durée, cette version-là.
Bah oui, mais on ne verra pas aujourd'hui.
On ne verra pas aujourd'hui.
Enfin, voilà. Non.
Malheureusement, on ne verra pas aujourd'hui.
On a entendu les 6. On en supprime 2. Béatrice,
moi, je ne suis certaine que d'une suppression pour moi. Enfin, moi, c'est la C que je voudrais supprimer.
Oui.
Mais j'ai du mal à choisir une autre à balancer, là, comme ça.
Ne vous inquiétez pas, il y en a qui vont vous aider. Hein.
D'accord, ben non. Voilà.
La C, c'est sûr. L'autre, vous hésitez entre... Vous avez des hésitations sur lesquelles ? Pour faire plaisir.
Peut-être la ouais. B, mais ça, ouais. Je ne sais pas.
Hervé Le Guenec, ce serait lesquelles pour
peut-être
vous ?
Ce serait A et C.
A et C. Yannick Millon.
Ben moi, comme je ne veux pas priver mes amis de la version E qu'ils aiment tant, même si je ne l'aime pas du tout, je vais dire A et C aussi.
A et C.
Merci.
A et C. C'est là, on supprime A et C, donc la C, c'est sûr.
Toujours la A qui...
La A, elle trinque parfois.
Ouais, hein.
Bon, là, ah, oui. Plus que peut-être que...
Difficile, oui, oui.
Bon, c'est pas facile, la concurrence est dure.
Oui.
C'est une des dernières versions qui est parue. Elle est enregistrée par le label Pentatone en 2022. C'est l'Orchestre symphonique de Montréal, dirigé par Raphaël Payaré.
Ah oui.
Ah oui, Payaré.
Voilà.
Ah, ça tombe bien parce que le scherzo est... Pas terrible.
On a bien fait finalement.
On a bien fait finalement. Bon.
Alors la version C, c'est celle d'un grand malérien. C'est Maris Jansons qui dirige l'orchestre, de l'orchestre symphonique de la radio bavaroise dans un concert de 2016 pour le label BR Classique. Voilà, c'était la C qui nous quitte avec la
A. L'orchestre est très bon, oui.
L'orchestre est très beau, oui. Et Jansons qui l'a enregistré notamment aussi, dont il existe des versions avec le plus ancienne avec le concert Gebo.
Ok. Voilà.
Ça, c'était la A et la C. On passe tout de suite au deuxième extrait.
France Musique, la tribune des critiques de disques, Jérémy Rousseau.
Dans la tribune des critiques de disques aujourd'hui sur France Musique, en compagnie de Béatrice Mutelet, Hervé Le Guenec, Yannick Millot, nous écoutons des versions de la 5e symphonie de Gustav Mahler, version des 30 dernières années. Vous pouvez nous écrire et tenter de gagner le disque Beethoven. L'orchestre Consuelo, dirigé par Victor-Julien Ferrière, les symphonies numéro 1, 2 et 4. Vous avez jusqu'à mercredi soir, minuit, pour nous écrire. Hervé Le Guenec, je vous ai présenté tout à l'heure et je vous représente comme le président de la société Mahler France. Qu'est-ce qu'on y fait exactement à la société Mahler ?
Alors, à la société Mahler, nous, notre but, c'est d'essayer de faire rayonner l'œuvre de Mahler. Donc, on a un site internet, on fait un certain nombre de critiques aussi. Pour
De disques, de concerts ?
De disques et de concerts, plutôt de concerts en ce moment, dernièrement. Donc, on a on invite aussi nos adhérents à des concerts et on fait des actions aussi un petit peu de développement. Alors, on a fait des propos d'avant-concert, par exemple, ou ce genre de choses pour essayer de faire connaître l'œuvre de Mahler et puis de ses contemporains également.
Ouais. Et vous avez une présidente d'honneur ?
Qui est Marina Mahler.
On peut rappeler, oui.
Que je salue également et donc avec laquelle on s'entretient très très régulièrement et qui a tout le legs de la famille Mahler.
Qui est la petite fille de Gustav Mahler.
Qui est la petite fille de Gustav Mahler et qui a toujours énormément de choses très intéressantes, en même temps sur ce qu'elle a vécu et en même temps sur ce qu'elle veut développer. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de projets et c'est une compagnie toujours extrêmement précieuse.
Bien. Merci de cet éclairage. On va entendre l'adagietto. On a malheureusement dû laisser tomber le deuxième et le troisième mouvement, surtout parce qu'il y a des... Alors, Mahler s'est beaucoup exprimé sur le scherzo. Le scherzo, l'un des plus longs scherzos de l'histoire de la symphonie. Il est si bien pétri qu'on ne peut trouver une seule petite graine qui n'ait pas été mélangée et transformée. Chaque note possède sa propre vitalité et l'ensemble forme un tourbillon ou constitue la queue d'une comète. Et Mahler écrit après qu'il sera extrêmement difficile, il demandera énormément de travail aux orchestres. Ce mouvement demande une très grande maîtrise artistique, aussi bien difficile du point de vue de la structure. En ce qui concerne les détails et les proportions, on peut le comparer à une cathédrale gothique où la complexité apparente doit aboutir à la suprématie de l'ordre et de l'harmonie. Voilà. C'est un hommage au scherzo qu'on n'entendra pas pour mieux se concentrer sur l'adagietto, rendu célèbre, on l'a dit, par Mort à Venise de Visconti en 71. Je rappelle, cette symphonie a été écrite en 1904. On sera peut-être amené à parler de... du caractère de l'adagietto, qui est peut-être en contradiction avec le caractère que Visconti a donné à cet adagietto dans le film. Je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais j'ai lu que sur l'une des partitions de Mengelberg, il y a cette phrase de Mahler: combien je t'aime, mon soleil, je ne peux pas te dire avec des mots, je peux seulement te témoigner mon désir et mon amour devant cet adagietto, qui est une dédicace à Alma. On est sûr de ça ou pas? C'est controversé? Vous êtes d'accord avec cette interprétation? Yannick, Hervé, Béatrice?
Ah, c'est écrit dans la partition de Mengelberg.
Il a écrit des choses dans les partitions, dans la dixième aussi. Ouais. Il lui a écrit
Ça colle avec le caractère pour vous de l'adagietto?
Ah bah c'est une lettre d'amour.
Ouais. Oui, mais en même temps, Henri-Louis de Lagrange n'était pas très d'accord avec cette idée-là.
Oui, c'est ça, oui. Oui. Il y a, en fait, c'est Mengelberg qui a écrit dans sa partition qu'il avait eu deux, en même temps d'Alma et séparément d'Alma et de Gustave, l'histoire comme quoi l'adagietto avait été offert, ou en tout cas était une lettre d'amour à Alma. Maintenant, ce que dit Henri-Louis de Lagrange, c'est que Alma avait 50 ans pour en parler et elle n'en a jamais vraiment parlé en tant que telle. Elle a tout noté dans ses cahiers de manière extrêmement précise et pas ça. Et il y a eu d'autres dédicaces, je veux dire, dans la 6e symphonie, il y a un thème qui lui est dédié et ça c'est très clair, enfin il y a un certain nombre de choses qui sont plus avérées. Alors c'est une belle histoire, cela dit, et peut-être que l'adagietto c'est aussi une question de belles histoires, donc on peut aussi laisser ça comme ça, mais en tout cas c'est pas certain.
Bien. Le fait qu'elle en ait pas parlé, ça veut pas dire que c'est pas vrai. Elle avait peut-être des velléités, elle était mariée à un autre homme, deux autres hommes.
Mais elle était très très bavarde.
Oui, elle était très bavarde.
Elle a laissé des choses, on verra tout à l'heure.
Elle a plutôt
dit plus de choses.
Bon, on va voir en tout cas ce que cette histoire donne dans, non pas la A puisqu'on l'a supprimée, l'adagietto, dans la version B.
se règle beaucoup mieux au concert, cette question-là. Dans cette version, moi, j'entends un excellent rubato qui est très naturel, jamais forcé, sans exagération. Il y a vraiment le côté un peu stop and go qui est sans arrêt, grâce à l'écriture de Mahler, qui demande sans arrêt des choses un peu contradictoires. C'est écrit adagietto, mais juste après molto adagio, très retenu, puis après un peu plus accéléré, tout ça. Mais je trouve que tout se passe tout seul dans cette version, les choses se font d'une manière assez naturelle. Ces cordes qui sont un peu translucides et d'une distinction extraordinaire, moi j'aime énormément ces cordes. On a des moments où c'est juste à peine frôlé, et avec, à mon avis, pour moi, les plus beaux violoncelles du monde dans cette version.
Ah oui.
Mais on est sur le ton de l'élégie, on n'est pas dans le tragique tellement dans cette version, y compris dans le moment où on est arrivé là, qui est un peu plus dense, où ça manque pas d'ampleur. Il y a des contrebasses qui sont assez merveilleuses. Mais on ne perd jamais le fil dans cette version. On n'est pas du tout dans l'idée du film dont on parlait tout à l'heure, de Mort à Venise, où on a un orchestre italien assez médiocre qui joue comme si avec les tripes, si vous voulez. C'est quelque chose de très tragique. Là, pas du tout. Et je trouve que c'est surtout une distinction extraordinaire dans cette version.
C'est la version idéale, dit Yannick Mignon. Vous partagez cette Hervé Le Guenec, pardon?
Alors, idéal, on va attendre d'avoir les autres versions pour être sûr.
Yannick a déjà fait son choix.
Oui.
Non.
Je trouve en revanche, c'est une version vraiment de la transparence, de la lisibilité, un très bel équilibre dans l'ensemble. Je trouve ça très clair, articulé, avec un respect du texte. Bon, après, c'est interprété, donc il y a toujours des choses qui sont des options, bien sûr, mais le son naît bien du silence au départ. C'est très important que le son naisse petit à petit. Je trouve que le début est assez difficile. C'est assez difficile aussi au concert, parce que souvent, il est difficile d'avoir du silence avant de commencer cet adagietto, et pourtant, c'est tellement important. J'ai noté sur ma feuille plus neutre que mélancolique. Donc, il y a une certaine neutralité, une certaine lisibilité toujours.
Ce qui est déjà le défaut un petit peu du premier mouvement.
Le défaut, ouais. Oui, en tout cas, le parti pris, on va dire.
Oui,
plutôt, le parti pris. Bon, il y a des choses qui sont... qu'on va peut-être voir d'ailleurs dans d'autres versions, il y a par exemple dans les seconds violons, à un moment donné, mesure 17, il y a une espèce de soupir des seconds violons qui est souvent très accentué. On a l'impression qu'on a vraiment comme on en a gros sur le cœur. Ici, c'est pas du tout accentué, donc tout est assez gommé. On est sur quelque chose de... j'aime bien le terme de plutôt élégiaque plutôt que, et pas du tout sur le côté tragique. Et le deuxième épisode, enfin le dernier épisode qu'on a entendu est bien amené avec le fortissimo. Il y a marqué sur la partition avec chaleur. Ça manque peut-être un tout petit peu de chaleur là pour le coup. C'est-à-dire c'est un petit peu froid à mon goût.
Est-ce que c'est une version à la Abado? Béatrice Mutelet, cette version.
Je ne dirai pas, mais j'espère que je ne vais pas avoir de mauvaises surprises.
Voilà.
C'est un peu ma hantise que vous mettiez une version où j'ai joué et que je ne la reconnaisse pas.
Ah, je n'ai pas pensé à ça.
Mais non, alors, pour moi, ce n'est pas la version idéale. Je trouve aussi qu'elle est un peu éthérée, enfin, comme dit Hervé, mais presque un peu muselée dans le son des cordes. Ce truc transparent qui est, enfin, donne beaucoup de clarté, très retenu. Je trouve presque que c'est un peu muselé, un peu qui ne s'exprime pas. Alors après, quand il y a le crescendo, ça marche super bien et je me dis, bon, ça avait un sens. Ça veut dire que c'était retenu pour pouvoir se lâcher dans ce crescendo qui est vraiment très, très beau et magnifique. Mais je suis pas complètement convaincue. Je trouve que c'est aussi, du point de vue du tempo, un peu statique. Cette lenteur, pour moi, dans la lenteur, il faut quand même qu'il y ait une direction et je ne sens pas d'agogie, je ne me sens pas attirée vers quelque chose. On est un peu contemplatif, je trouve.
Bien.
Et la harpe, un tout petit peu métronomique aussi, je trouve, au début. Les triolis, c'est très, très en place, mais c'est mon avis.
C'est votre avis. On passe à non pas à la C, qui est supprimée, mais à la D.
Thank you.
La version D de l'Adagietto de la 5e symphonie de Mahler, est-ce qu'elle conserve toute cette noblesse que vous aviez appréciée tout à l'heure, Hervé Le Guenec, dans cette version?
Ah, je trouve totalement. On s'installe bien dans cette version. Il y a un charme rêveur. Je trouve que les effets d'apesanteur sont, en particulier au début de ce mouvement, sont très bien rendus. Même si on a beaucoup plus de vie, beaucoup plus de vibrato, les cordes sont beaucoup plus présentes. Il y a plus de chair que dans la version B. C'est en même temps intérieur, mais c'est en même temps plus expressif. Et c'est expressif au moment où ça doit l'être. Les pupitres sont très beaux. Il y a un très beau trait d'alto, mais ça, je vous laisserai commenter.
Oui, c'est magnifique.
C'est absolument magnifique. Donc, en un mot, c'est plus romantique, je dirais. Enfin, en tout cas, moi, il y a quelque chose qui fait écho à quelque chose de, de plus romantique, il y a plus de vie, les contrastes sont vraiment beaux, et on trouve cette noblesse, ce calme qu'on trouvait aussi dans le premier mouvement. Donc il y a une espèce de, une certaine continuité en tous les cas dans, oui. dans l'interprétation.
Oui. Qu'est-ce qui fait que le pupitre d'alto, on, tout d'un coup on le remarque dans cette version, oui. non plus que
ça veut dire que les autres musiciens ont laissé la place. ils sont peut-être conscients d'avoir un bon pupitre d'alto. Voilà, mais c'est ça dans Malheur. En fait, il y a tout le temps des groupes d'instruments qui ressortent. On ne sait pas d'où. Ben là, enfin, il y a une
la couleur
note.
Ici. Oui.
Oui, il y a une note à un moment dans les seconds violons. C'est pas la mesure 17 que vous évoquiez. C'est dans le vide. Äußerst langsam. Il y a une note, c'est le mi qui change toute l'harmonie de tout l'accord. Et c'est tellement incroyable de donner ça au second violon comme ça, complètement caché dans le score, et ça fait basculer. Ça fait basculer là.
Oui. Il y a plus de chair, dit Hervé Le Guenec.
Oui, je suis d'accord. Mais en fait, je pense qu'il y a un problème dans la, enfin, par rapport à la version d'avant qu'on a écoutée, qui sonnait très sur la touche. En fait, comme s'il est, il le marque, hein, Malheur, quand il veut que ça soit sur la touche. Là, il a marqué Griff Brett, c'est page 179. Il le marque quand il veut ce son qui soit éthéré et un peu flottant, qui ne rentre pas dans la corde, où il n'y a pas de consistance. Il le note. Et en fait, ce qui m'avait dérangé, enfin, ce que je trouve moins le cas dans cette présence.
Dans cette version,
c'est qu'on est justement dans la corde. Et c'est ce qui est voulu, parce qu'il le note plus tard. Là, il faut être sur la touche, donc on peut changer de son. Mais ça veut dire que ce n'est pas le même caractère.
Oui.
Donc j'aime bien. Je
Vous êtes touchée ?
Oui. Oui, oui, je suis touchée. J'attends en fait qu'une version où le début, enfin cette troisième mesure, vous voyez, il y a ces trois notes du début, la levée. Hein, les trois croches, et je sais que quand je l'ai travaillé donc avec Claudio Abbado à Lucerne, enfin, on a passé un temps fou sur ces trois notes du violon qui sont comme une levée, mais elles ne le sont pas, parce que quand on atterrit sur le temps après, c'est piano. Donc en fait, elles appartiennent à un autre monde. Et en fait, il faut recréer ça, parce qu'il marque un crescendo, et puis après, subito pianissimo, l'accord, il est en plus, il y a une appoggiature dessus, donc on n'est même pas vraiment arrivé en fa majeur. Et donc, c'est cette... attente, il y a une promesse, mais elle doit être déçue. Je ne l'ai pas encore entendue. Ça me manque encore, mais on verra.
Yannick Millon, cette version, par rapport à la précédente, que vous aviez beaucoup appréciée, que vous aviez défendue,
oui.
Dans ce côté éthéré qu'avait la précédente, qu'est-ce qui vous convainc davantage ? Peut-être que celle-ci, là...
Elle me convainc toutes les deux dans des genres très différents, mais j'aime énormément cette version D à nouveau, comme dans le premier mouvement. C'est vrai qu'on a une approche un peu plus physique du son, un peu plus romantique. La manière dont le premier son est rentré, moi, ça m'a fait penser tout de suite, je ne sais pas pourquoi, à l'Adagio de Barber. Donc, vous voyez, ce type de musique pour cordes très dense comme ça. On a un vrai poids sur les pits des contrebasses qui donnent vraiment des fondations à cet ensemble. Après, on a la stratification sonore n'est pas la même. Ça fait beaucoup moins mélodie accompagnée ici. On est beaucoup plus dans le... C'est très intriqué, très dans l'harmonie, très riche, très profond et profus presque. Il y a de très beaux démanchés aux cordes. Cette version est plus résignée que la précédente. Elle est un peu plus sombre aussi. En revanche, à la toute fin, du coup, j'ai eu un petit peu moins de contraste sur le passage où on s'est arrêté, le Fleecender, qui est davantage tourmenté. Et on a moins de contraste que dans la version précédente, du coup, qui était tellement éthéré au départ que ce passage-là prenait plus de relief. Mais enfin, tout ça est très, très bien conduit. C'est une très, très grande version romantique et qui pose bien l'œuvre dans son époque. Un travail peut-être moins moderne
que celui de la
B, mais deux approches qui sont complémentaires et que je trouve passionnantes toutes les deux.
Bon, voyons la version E dans l'Adagietto. Thank you. C'est la version E de l'Adagietto. Cette version E, est-ce qu'elle a enfin ce que vous cherchiez tout à l'heure, Béatrice Mutelet, dans l'attaque notamment ?
Elle est très belle, l'attaque. Elle est, peut-être que moi, je me rappelle d'une version que j'ai jouée et que, voilà.
Elle vous rappelle une version que vous avez jouée ?
Oui, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si c'est Berlin ou si... En tout cas, le son, enfin, j'étais émue. Il y a un sens du timing, je ne sais pas qui est le chef, mais il y a un sens du timing que je trouve très très bon. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de suspension comme ça dans le... Des espaces aménagés dans les notes, dans les mesures, qui créent le mystère en fait, qui crée l'attente. J'ai beaucoup aimé, j'ai aussi aimé, il y avait un côté un peu noir et dramatique, mais un peu de noirceur, je ne sais pas, dans les graves à un moment. Enfin, c'est ce que ça m'a évoqué. Dans toute cette beauté, d'avoir aussi un côté, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé la harpe très bonne, très fluide, homogène en fait, qui s'intègre mieux parce qu'il y a eu des versions où je l'ai trouvée très à part. Et je ne sais pas si c'est juste une histoire de prise de son, mais je pense que musicalement, elle s'intégrait mieux, elle était plus fluide.
On avait remarqué l'excellence de la prise de son tout à l'heure déjà dans le premier mouvement, dans cette version E.
Oui.
Elle est plus viscontienne que chant d'amour, sur l'exemple des mots... de la partition de Mengelberg qui s'adresserait à Alma.
J'ai pas pensé à ça. Est-ce que l'amour est part de noirceur de drame,
oui,
certainement.
Bien sûr. Oui.
D'ailleurs, Abbado avait dit que, je me souviens d'une citation, de dire que personne n'avait écrit aussi bien l'amour que malheur, mais qu'il n'y comprenait sans doute pas grand-chose.
C'est amusant ce que vous dites, parce que j'ai quelques lignes d'Alma que je vous lirai tout à l'heure sur Malheur. Je suis certain que votre voisin Yannick l'a pas du tout entendu de cette façon-là.
Ça dépend.
Ah bon, ça dépend. Ah, parce que tout à l'heure, vous aviez été très sévère sur cette version.
Oui, mais d'ailleurs, je l'aime toujours pas énormément.
Ah bon?
Mais je pense qu'en fait, la prise de son, qui a beau être excellente, la prise de son crée une dramaturgie qui s'ajoute à celle du chef. Et ce qui fait que c'est pas toujours évident. Moi, j'ai trouvé que c'était fort dès le début, notamment. Même la première tenue de corps, j'ai trouvé ça un petit peu trop fort. J'ai trouvé qu'on n'avait plus les pits en fondation de cathédrale qu'on avait dans la version précédente. En revanche, il y a une chose qui est très très bien dans cette version, c'est qu'il y a un côté très capricieux, beaucoup de plasticité. Ouais. On réagit beaucoup sur l'instant. Mais en même temps, je trouve qu'il y a quelques nuances un peu exagérées au chiffre 1. Et on aime ou on n'aime pas, mais il y a quand même, c'est vrai qu'on a un très beau bain de vibrato, on est presque dans un grand jacuzzi au milieu des cordes, on en prend plein la figure. Et
jacuzzi.
Il y a presque un côté nuit transfigurée dans cette version.
Ah oui, c'est nuit transfigurée.
Un côté, oui, avec un peu plus vénéneux, mais qui est très intéressant pour le coup, qui est un peu plus sombre, avec des arrière-plans un peu plus, un tout petit peu plus empoisonnés que dans les autres versions. Et voilà. Moi, j'ai pas beaucoup aimé les graves de la harpe, que j'ai trouvé un petit peu grêle. Mais bon, sinon, non, mais ça se tient très bien. Puis il y a le côté vraiment capricieux et grande plasticité qui est intéressant. Mais ça, je préfère les deux autres.
Les deux presses. Ah oui, vous préférez aussi la B à celle-là.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Hervé, vous préférez celle-ci aux précédentes ou pas, vous?
Ah voilà. Oui, alors je vais être fidèle à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le premier mouvement. Je trouve qu'on a une variété de climat en ces quelques mesures qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on passe d'un côté assez contemplatif, quelque chose de triste, je trouve, à quelque chose de beaucoup plus, avec des accents beaucoup plus dramatiques à la fin. Et le chef arrive à changer les atmosphères et les cordes suivent d'une manière que je trouve absolument fabuleuse. Le vibrato est finalement assez mesuré. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le jacuzzi. Je trouve
non, moi non plus. Enfin, bon.
Ouais. C'est assez mesuré. Il y a plus de vibrato, je trouve, sur la version précédente. On est un peu entre le B et le D. Je trouve qu'on a ici un équilibre qui est absolument souverain. On sent ce que vous disiez, Béatrice, tout à l'heure. C'est-à-dire, le son, on a l'impression qu'il se passe de pupitre en pupitre, parfois. Il y a cette espèce de chemin absolument fabuleux. Il y a de l'urgence là où il en faut. Le crescendo, je trouve, sont parfaitement menés. Le côté promesse non tenue que vous disiez au début, je l'ai entendu. Alors peut-être ça s'entend encore mieux dans d'autres versions, mais en tous les cas, je l'ai entendu et je trouve que c'était tout à fait...